Le journal, c'est donc Margot Steve. Bonsoir Margot.
Bonsoir Julie, bonsoir à tous. Fin du suspense en Algérie. Abdelaziz Bouteflika serait bien candidat à un cinquième mandat. Sa candidature a été déposée cet après-midi selon une chaîne de télévision algérienne proche du pouvoir. Une candidature maintenue donc malgré les manifestations et malgré la colère des Algériens. Les combats continuent de faire rage en Syrie où l'assaut final des forces anti-djihadistes s'avère plus compliqué que prévu. En Estonie, tous les regards braqués sur l'extrême droite. Le parti pourrait faire une percée historique aux élections législatives aujourd'hui. La vague MeToo en Afrique, des femmes dénoncent les abus sexuels qu'elles ont subis elles aussi dans le milieu du cinéma. Et puis le gouvernement veut faire payer Ford pour la fermeture de l'usine de Blanquefort. 20 millions d'euros, est-ce que cela suffit? Est-ce que l'État en fait assez? On posera la question à Marie-Claire Caïto, elle est responsable du secteur industriel à la CGT. Des dizaines de milliers de manifestants n'y auront donc rien fait. Abdelaziz Bouteflika serait bien candidat pour un cinquième mandat à la tête du pays. Sa candidature a été déposée il y a un peu plus d'une heure devant le Conseil constitutionnel. C'est ce que rapporte la chaîne de télévision algérienne Ennahar, proche du pouvoir Nathanaël Charbonnier.
Oui, alors si l'information est confirmée officiellement, ce qui n'est pas le cas, je crois que c'est important quand même de le rappeler, c'est vraiment un pas vers l'inconnu qui serait franchi parce que la candidature de Bouteflika de nombreux Algériens n'en veulent pas, ils l'ont dit, redit, notamment depuis le 22 mars dernier en descendant en nombre dans la rue, partout dans le pays, et notamment à Alger. Il faut savoir que Bouteflika est quand même âgé de 82 ans et qu'avec son AVC, il s'est transformé en momie et qu'il est au pouvoir depuis 57 ans. L'autre information confirmée, celle-là, c'est le retrait de celui que l'on présentait comme le principal opposant, Ali Benflis, ancien Premier ministre de Bouteflika, candidat malheureux à deux reprises à l'élection présidentielle, a décidé de ne pas se présenter. Il avait obtenu 6% en 2004 et 12% en 2014, mais le problème n'est pas là. Benflis, en refusant de déposer sa candidature, refuse en réalité de servir de caution à une élection qui n'en serait pas une. Il a bien compris que si l'armée a décidé de ne pas lâcher Bouteflika, il n'a aucune chance, sinon servir de faire valoir une élection pipée dans laquelle il n'a pas envie de jouer un rôle. En attendant, la situation à Alger est confuse. Il y a eu des manifestations aujourd'hui, notamment des jeunes qui se sont retrouvés à la faculté, mais non loin aussi du Conseil constitutionnel où doivent être déposées les candidatures. Selon plusieurs médias, des fourgons supposés transporter les cartons de parrainage du président sortant seraient arrivés. Il faut rappeler que ce dimanche est le dernier jour légal de dépôt des dossiers, c'est jusqu'à minuit ce soir. Reste maintenant à attendre la réaction de la rue. Si la candidature de Bouteflika est bien confirmée, l'Algérie risque d'entrer à nouveau dans une période incertaine.
Oui, parce que quoi qu'il en soit, les Algériens ne comptent pas arrêter leur mobilisation. Ils avaient déjà prévenu, Bouteflika ou pas, leur colère va au-delà de la question de ce cinquième mandat. Les Algériens de Paris aussi étaient dans la rue ce midi pour un rassemblement en place de la République où vous étiez, Angélique Ferrat.
Drapeau sur les épaules, autour de la tête ou à la main, la foule entonne des chants patriotiques. Tous ont l'Algérie au cœur et des mots durs au bord des lèvres.
Ben, non, au cinquième mandat, un président malade qui est au lit, on ne sait même pas s'il est décédé encore ou pas, entre nous, point d'interrogation. Et ben non. Non.
Oui, je me sens concernée. Depuis mes 18 ans, je n'ai jamais voté parce que c'est toujours le même président. Donc pour moi, ça ne change rien. Donc ça ne sert à rien d'aller voter. Il y a beaucoup de corruption. J'ai la rage. Voilà. Tous les Algériens ont sorti dans les 48 wilayas. Donc et là, à l'étranger aussi, pareil. Tout le monde sort. Dans tous les pays, même en Australie, partout.
Le cinquième mandat n'est plus le seul mot d'ordre. Petit à petit, on glisse vers des slogans plus radicaux comme « Fin d'un régime corrompu, non à la continuité » ou « Libérer l'Algérie ».
Bande de voleurs, vous avez bouffé le pays en fait. En fait, ils nous ont dépouillés tout simplement, c'est ce qu'on leur dit.
S'il y a un cinquième mandat déposé aujourd'hui, vous allez faire quoi ?
Moi, je pense que ça va continuer en Algérie, les gens en ont marre. Tous ceux que je connais qui sont en Algérie vont continuer.
Il y en a marre de ce pouvoir, il y en a marre de ce pouvoir, il y en a marre.
Le reportage d'Angélique Ferrat, place de la République à Paris. Des manifestations ont aussi eu lieu à Marseille, Rennes, Toulouse et Strasbourg où plus de 200 personnes se sont rassemblées cet après-midi devant le consulat d'Algérie. La violence monte encore d'un cran en Syrie où l'Alliance arabo-kurde mène depuis deux jours l'assaut final contre le dernier bastion de l'État islamique dans l'est du pays. Une zone de quelques kilomètres où les combats font rage, Aurélien Colli.
Depuis ce matin, c'est un déluge de feu qui s'abat sur le dernier réduit des djihadistes. Tirs d'artillerie, crépitements incessants de mitrailleuses et frappes ciblées de la coalition, selon des témoins sur place. Un dépôt d'armes souterrain a été touché, provoquant une énorme déflagration qui a rasé un campement informel de l'organisation État islamique, campement qui jouxte l'Euphrate et les quelques pâtés de maisons où les derniers combattants sont retranchés à l'est du village de Baghouz. On ne sait pas combien ils sont totalement assiégés, mais ils ont enfoui des mines dans les maisons et sur les routes, explique un commandant des forces démocratiques syriennes. Usage aussi de kamikazes et de voitures piégées dans la journée pour tenter d'endiguer la progression de la force arabo-kurde qui a pris, elle, une dizaine de positions clés ces dernières 24 heures. La progression est lente, prudente, face à un dernier carré d'irréductibles qui n'a aucune intention de se rendre. La majorité sont des combattants étrangers, notamment des Français, indique le commandant des forces démocratiques syriennes qui intercepte leur communication, leurs échanges radio. Malgré les évacuations massives de civils ces 10 derniers jours, quelques familles seraient encore dans la dernière enclave. Des familles qui ont refusé de partir avant l'assaut final.
Aurélien Colli, correspondant de France Culture à Beyrouth. Au Venezuela, Juan Guaido compte bien rentrer au pays. Le leader de l'opposition le confirme aujourd'hui sur Twitter, même s'il risque d'être arrêté. Il appelle aussi le peuple vénézuélien à manifester dans tout le pays. L'extrême droite va-t-elle faire une percée en Estonie ? C'est l'un des enjeux des élections législatives qui se déroulent aujourd'hui. Le scrutin s'annonce en tout cas très serré. Le parti d'extrême droite pourrait arriver en troisième position après une campagne centrée sur le pouvoir d'achat et un discours xénophobe. Des arguments qui trouvent un écho chez une partie de la population, explique Jean-Yves Camus. Il est directeur de l'Observatoire des radicalités et rentre tout juste de Tallinn.
C'est son histoire particulièrement compliquée. Et la taille de ce tout petit pays d'1 300 000 habitants, dont 300 000 membres de la minorité russe, qui crée un certain nombre de fantasmes, comme celui d'une islamisation future, alors qu'il y a aux alentours de 200 musulmans à Tallinn, la capitale, et ce fantasme d'une vague migratoire qui justement va venir, c'est ce que j'entendais là-bas, va venir jusqu'à chez nous. Pourquoi ? Parce qu'économiquement, nous nous portons mieux que nos voisins, et nous allons donc, nous, petits pays que nous sommes, voir venir demain des hordes d'immigrés. Il y en a actuellement aux alentours de 200.
Jean-Yves Camus, directeur de l'Observatoire des radicalités. Après MeToo aux États-Unis et Balance ton port en France, la libération de la parole touche maintenant l'Afrique avec le mouvement Même pas peur. À l'occasion du festival de cinéma et de télévision de Ouagadougou, le FESPACO au Burkina Faso, des actrices ont dénoncé les abus sexuels dont elles ont été victimes, Théo Conscience.
Tout commence pendant une conférence sur la place des femmes dans le cinéma africain en marge du FESPACO. La comédienne française Nadège Bosson-Diagne révèle les agressions sexuelles qu'elle a subies à ses débuts au cinéma. La réalisatrice Rama Benamou El-Madani, qui organisait la conférence, raconte la scène.
Alors, ce qui était très, très, très émouvant, c'est que beaucoup, beaucoup de femmes pleuraient avec la réaction dans la salle qui continue, avec des témoignages de jeunes africaines qui toutes parlent des abus ou des intimidations ou du harcèlement.
Un témoignage en particulier secoue l'assistance. C'est celui de l'actrice et comédienne burkinabé Azata Soro, défigurée avec un tesson de bouteille par le réalisateur Teiru Tasséré Ouédraogo.
Et nous qui sommes là, toutes à soutenir Azata et à lui demander de parler, de nous raconter ce qui s'est passé. Parler entre des larmes, avec la joue évidemment tailladée, mal cicatrisée.
Une agression qui a lieu en 2017 sur le tournage de la série Le Trône, qui est en compétition au FESPACO. Indignés, les participants de la conférence lancent une pétition pour exiger son exclusion et créent le hashtag « Même pas peur » pour inciter les femmes à prendre la parole.
Libérer la parole, ça veut dire soutenir ces femmes qui prennent leur courage à deux mains et qui disent bah, « Stop, non, plus jamais ça, ça suffit ». On a même pas peur parce que c'est ce qui s'est dit, hashtag même pas peur.
Après la pétition et le hashtag, Rama Benamou El-Madani ne veut pas s'arrêter là.
On est des réalisatrices, on est dans le documentaire, on est là pour donner nos points de vue, on est là pour apporter des regards, on est là pour raconter des histoires. Et si on n'arrive pas à raconter cette histoire-là, il faudra bien un jour que nos filles ou nos petites filles le fassent. Donc autant que nous, on montre un peu le chemin.
Avec son collectif féministe des cinéastes non alignés, la réalisatrice veut maintenant travailler avec les institutions pour produire la première grande étude sur les femmes dans le cinéma africain.
Et après ces révélations, la chaîne TV5 Monde, qui devait diffuser la série Le Trône, annonce qu'elle arrête toute collaboration avec le cinéaste Teiru Tasséré Ouédraogo. Malek Shekat, jugé en comparution immédiate demain. Le frère de Chérik Shekat, l'auteur de l'attentat de Strasbourg en décembre, a été placé en détention provisoire aujourd'hui après avoir posté des messages provoquants sur sa page Facebook. Il avait notamment publié des photos d'armes. 17 ans après l'attentat qui avait fait 15 morts au Pakistan, il y aura bien un procès français dans l'affaire Karachi. Le volet financier de l'affaire sera jugé en octobre. 6 personnes vont comparaître, toutes liées aux soupçons de commission occulte en marge de la campagne présidentielle d'Édouard Balladur en 1995. Des émeutes cette nuit dans le quartier du Mistral à Grenoble après la mort de 2 jeunes qui voulaient échapper à la police. Leur scooter a percuté un bus. Les heurts ont éclaté juste après dans le quartier. Une centaine de policiers ont été mobilisés jusqu'à 4 heures du matin. Le procureur de la République doit s'exprimer dans les prochaines minutes. C'est un pas de plus vers la fermeture annoncée de l'usine Ford de Blanquefort en Gironde. L'État doit valider demain le plan social présenté par le constructeur américain. Mais les discussions avec Ford ne sont pas pour autant terminées. Aujourd'hui, le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, annonce qu'il va demander 20 millions d'euros à Ford, une somme qui doit servir à réindustrialiser le site de Blanquefort. Marie-Claire Caïto, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable confédéral pour le secteur de l'industrie à la CGT. Alors, est-ce que pour vous, ces 20 millions demandés par l'État à Ford, c'est une solution?
Écoutez, monsieur Bruno Le Maire, qui est ministre de l'économie, comme vous l'avez signalé, puisqu'on n'a plus de ministre de l'industrie depuis ce gouvernement, gesticule beaucoup, fait beaucoup de communication, mais pour l'instant, son bilan est désastreux. Hein, c'est un zéro pointé. Donc, si on fait référence à l'interview qu'il a donnée aujourd'hui, il demande 2 choses à Ford Blanquefort. La première chose, c'est de dépolluer le site. Enfin, ça semble quand même la moindre des choses, j'allais dire. Et la deuxième chose, il lui demanderait 20 millions d'euros pour réindustrialiser le territoire, sachant qu'il n'a pas encore de réponse de la part de Ford, qui doit quand même de toute façon 4 millions d'euros. Donc j'allais dire, si on fait le rapport par rapport aux 40 à 50 millions d'aides publiques qui ont été données à Ford Blanquefort sans contrepartie, alors qu'ils n'ont pas du tout rempli leur objectif, on va dire c'est pas beaucoup. À l'heure où aujourd'hui on questionne beaucoup la dépense publique, sur les ronds-points on dit regardons la dépense publique, réduisons la dépense publique. Chaque année on donne 20 milliards d'euros aux entreprises en CICE, cette année ça sera 40 milliards parce que ça va être doublé. Donc là, il y a quand même des choses à faire.
Est-ce que pour vous, l'État a tout essayé pour sauver l'usine de Blanquefort ?
Non, bien sûr que non. Nous pensons que l'État manque de vision industrielle, manque de stratégie industrielle et je pense qu'on va en débattre dans l'émission qui suit.
Merci Marie-Claire Caïto. Vous êtes représentante donc de la CGT pour le secteur de l'industrie et vous le disiez, vous serez dans quelques minutes l'invité de l'émission dimanche et après avec Julie Gacon. Emmanuel Macron sur la télé italienne. Ce soir, le président participe à une émission de divertissement sur la chaîne Rai Uno. Une façon pour le président de calmer le jeu en pleine période de tension avec le gouvernement italien et aussi d'entamer la campagne pour les élections européennes du 26 mai prochain. Les élections européennes auxquelles va participer Christophe Chalençon, le leader des Gilets jaunes, lance sa liste. Il l'annonce aujourd'hui dans un communiqué. Heure d'été ou heure d'hiver, il reste quelques heures pour choisir. La Commission européenne veut supprimer le changement d'heure. Ce sera donc à chaque pays de déterminer sur quel créneau il se base. La consultation ouverte par l'Assemblée nationale en France se termine ce soir. 35 départements placés en vigilance orange au vent violent à partir de cette nuit et jusqu'à 18h demain. La zone concernée s'étend du nord de la Seine au Grand Est en passant par l'Eure-et-Loir et le Loiret. On attend des rafales jusqu'à 110 et 120 km/h.